France Info.
Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour.
Theresa May, la première ministre britannique, obtient un nouveau délai pour négocier le Brexit jusqu'au 31 octobre. On a l'impression que les Britanniques ne veulent plus sortir de l'Union européenne.
Oh, je crois qu'il faut distinguer la classe politique britannique et Madame May, qui visiblement ne souhaite pas ce Brexit, dont la majorité est fragilisée, et les aspirations légitimes à la liberté d'une grande majorité de Britanniques qui ont voté pour quitter l'Union européenne. Maintenant, il faut entendre, il faut appliquer ce référendum. On a un peu l'impression, je trouve que la métaphore convient bien, de deux voitures qui se foncent dessus et les deux chauffeurs se disent finalement l'autre va dévier. Bon, il se trouve que du côté de Madame May comme du côté de Monsieur Barnier, on n'a pas souhaité ce Brexit, on fait tout pour en retarder l'échéance, mais il y a eu un vote. La démocratie a parlé et maintenant la démocratie doit être respectée. Donc bon, alors, je veux bien qu'on repousse de 6 mois le temps de trouver un accord et pourquoi pas. Je veux dire, on va là devant un processus qui est évidemment majeur, qui est important, sans précédent, avec des conséquences économiques derrière qui, nous le croyons et nous le disons, seront positifs, notamment les effets positifs que ça a pour l'instant pour l'économie britannique.
Jordan Bardella, est-ce qu'on peut vraiment renvoyer dos à dos la responsabilité des Britanniques et de l'Union européenne quand on voit que l'Union européenne, elle était favorable à Brexit, que Emmanuel Macron était favorable à ce qu'il entre en application, pardon. Emmanuel Macron voulait le délai le plus court possible. Je propose d'écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron au sortir de la négociation à Bruxelles.
Il appartient maintenant aux Britanniques d'abord d'être clairs avec eux-mêmes et avec leur peuple. Et donc c'est vrai que la position majoritaire était plutôt de donner une extension très longue. Mais à mes yeux, ça n'était pas logique et surtout, ça n'était ni bon pour nous, ni bon pour les Britanniques.
La France veut que ça aille le plus vite possible et que ce Brexit entre en
application. J'ai entendu aussi il y a quelques jours Emmanuel Macron dire qu'il fallait que la sortie se fasse avant le 30 juin et que les Britanniques devaient absolument sortir.
Mais c'est bien les Britanniques qui ne veulent plus sortir. Jean-Noël Bardella.
S'il y a bien un dossier sur lequel l'Union européenne a défendu ses intérêts, c'est sur celui du Brexit. Voilà, on les a jamais vus aussi efficaces dans la défense de leurs intérêts
et
que lorsqu'il s'agissait de montrer l'exemple et de montrer que cette Union européenne était en fait carcérale et qu'à partir du moment où un pays était dedans, il ne pouvait pas
intérêts. C'est une bonne chose.
Moi,
qu'elle défende ses intérêts face au Royaume-Uni dans cette négociation.
Mais non, mais on n'est pas en guerre avec le Royaume-Uni.
Dans cette négociation, j'ai dit.
Non, mais encore une fois, depuis des années, enfin, on négocie des traités de libre-échange avec la terre entière et on voudrait nous faire croire que demain, le Royaume-Uni serait totalement isolé, qu'on ne pourrait pas commercer avec. En réalité, et Monsieur Tusk, le président du Conseil, l'a dit, il a dit la sortie doit être la plus douloureuse possible pour les Britanniques. Les Britanniques doivent aller en enfer.
C'est lui qui a eu des propos totalement délirants.
Ça, c'est Pécresse. Et lui, il a dit que les Britanniques devaient aller en enfer. Ils ont eu des propos totalement délirant.
Et Jordan Bardella, la semaine dernière, Donald Tusk.
Ne posez pas de questions en même temps, je vous réponds.
Précis, Donald Tusk, la semaine dernière, a plaidé pour un report d'un an. Il était même prêt à accorder beaucoup plus de temps aux Britanniques.
Mais on retarde l'échéance. Et dans un an, le problème sera le même. Moi, j'étais il y a quelques jours en Bretagne, aux côtés des pêcheurs qui ont de réelles inquiétudes, les pêcheurs français, les pêcheurs bretons, puisque vous savez que 50% des fruits de leur pêche est issu des eaux territoriales britanniques. Et il se trouve que ça fait des mois qu'on sait que ce Brexit va se produire et il n'y a aucune négociation qui a été ouverte, notamment pour défendre nos intérêts et les intérêts des pêcheurs français. Et gouverner, c'est prévoir. Voilà. Et en réalité, depuis des mois, on attend. Mais à un moment donné, il va falloir se mettre autour de la table, il va falloir convenir d'un accord qui soit raisonnable pour les deux camps, parce que en réalité, l'accord qui a été proposé... par la classe politique britannique. L'accord qui a été proposé au mois de novembre, qui est le fameux accord qui a été discuté, si vous voulez entraîner les conditions d'une sortie du Royaume-Uni, mais en fait, ils avaient tous les inconvénients sans les avantages. C'est-à-dire qu'ils restaient dans l'union douanière, ils restaient dans le marché commun, mais ils subissaient encore l'application d'un certain nombre de directives européennes, mais ils n'avaient plus la possibilité de s'exprimer et la possibilité de voter, notamment
le gouvernement britannique,
et notamment lors des élections européennes.
Le Royaume-Uni l'a signé, cet accord.
Oui, d'accord, sauf que l'accord a été rejeté par les représentants du peuple, c'est-à-dire par la Chambre des députés. Donc, ok, d'accord, on va repousser de 6 mois, sauf que dans 6 mois, le problème va être le même. Il faut donc aujourd'hui que le vote des Britanniques soit respecté et qu'on respecte la volonté populaire et de retrouver la liberté.
Respecter la volonté populaire, ça voulait dire une sortie sauvage, par exemple, dès demain, sans accord. Et là, ça aurait été une très mauvaise nouvelle pour les pêcheurs français.
Mais il y a des commissaires européens, il y a des gens qui sont payés très cher pour s'occuper du Brexit. Ils font quoi, ces gens, depuis des mois? Parce que moi, quand j'entends effectivement les pêcheurs la semaine dernière nous expliquer que peut-être que dans une semaine, puisque c'est la semaine dernière, ils seront privés des eaux territoriales britanniques.
Mais là, l'accord, il est refusé à Londres.
Aucun dirigeant français ne s'est occupé d'eux. Eh ben oui, ça me pose un problème.
Concrètement, vous étiez favorable à un Brexit sans deal, sans accord, demain soir.
Non, je disais, Valérie, un good deal qu'un no deal. Effectivement, le no deal était peut-être un peu brut, mais l'économie britannique aurait survécu. Enfin, il faut quand même se rappeler que...
Donc il fallait
que
un no deal demain, pour être
quand
clair.
Même se... D'accord. Non, mais attendez, je vais vous répondre. Laissez-moi parler plus de 30 secondes.
Mais c'est juste qu'on
il faut
pas.
Quand même se... Bah si, bah, je vous explique, vous allez comprendre.
Vous auriez préféré un no deal demain.
Laissez-moi.
Alors, est-ce que vous auriez préféré un no deal demain à un report?
Laissez-moi vous répondre et je vais vous expliquer. Moi, je préférais un good deal qu'un no deal. Parce qu'effectivement, le no deal aurait entraîné des conséquences dramatique pour notamment les pêcheurs français. Bon, il se trouve que les accords concernant la pêche étaient en vigueur depuis les années 60. Donc si le gouvernement français négocie de manière bilatérale avec le Royaume-Uni, comme on négocie des accords de libre-échange avec la terre entière, on pouvait préserver nos intérêts. Or, il se trouve que on n'a pas négocié. Voilà, on n'a rien fait. On attendait que ça vienne. Et le jour, effectivement, le jour où le Royaume-Uni, la sortie était prévue, c'est-à-dire fin mars, eh ben, effectivement, rien n'était prévu.
Et donc, votre réponse?
Donc, il valait mieux là un report pour trouver un good deal.
Oui, bien sûr, voilà, bien sûr, mais on peut se laisser quelques mois, je veux bien, mais pour trouver un accord, voilà, pas pour attendre le dernier jour et pour faire en sorte qu'on retarde l'échéance. Moi, je veux dire, il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Les Britanniques ont choisi de sortir du Royaume-Uni, il faut donc respecter leur accord et il faut que le gouvernement français défende les intérêts de la France. On a des exportations qui se portent relativement bien avec le Royaume-Uni. Et puis, pardon, mais on a joué sur les peurs pendant des mois parce que l'économie britannique ne s'est jamais aussi bien portée. Le chômage n'a jamais été aussi bas depuis 1975, c'est-à-dire depuis 45 ans.
Le Brexit n'a pas encore eu lieu. Hein.
Vous savez qu'en économie, il y a des effets d'anticipation. Même Monsieur Langlais, maintenant, nous explique que l'économie britannique est assez solide et que nous avons commercé de tout temps avec le Royaume-Uni et qu'on continuera de commercer comme nous commerçons avec des pays du monde entier. Donc ne jouons pas sur les peurs.
Vous dites, Jordan Bardella, vous dites que l'Europe est une prison. Hein. Vous avez parlé d'une logique carcérale. C'est une prison à vos yeux, l'Europe.
En tout cas,
pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que la France sorte de cette prison?
Parce qu'on a fait un choix différent de celui des Britanniques. Aujourd'hui,
très agréable d'être dans une prison.
D'arriver, et d'ailleurs on paye un loyer très cher pour rester en prison, mais est en train d'arriver aujourd'hui partout en Europe des partis qui contestent cette Union européenne. Bon, alors si demain il s'agit d'aller devant les institutions européennes, avec Monsieur Salvini qui est ministre de l'Intérieur italien, avec nos alliés du FPO qui aujourd'hui sont au gouvernement, eh bien on peut arriver en force et on peut changer profondément cette construction européenne en la transformant en une grande coopération entre les nations, mais il faut aujourd'hui que les nations retrouvent leurs prérogatives premières en matière de contrôle des frontières, en matière de contrôle de leur budget, parce qui est aujourd'hui soumis à la Commission européenne, en matière de patriotisme économique, qui est aujourd'hui interdit par la réglementation européenne. Et je pense que dans cette grande alliance des nations qu'on défend, des nations libres, souveraines, dans cette Europe des projets qui a fonctionné par le passé, c'est celle qui a fait Airbus, c'est celle qui a fait Ariane, je pense que le Royaume-Uni y aura toute sa place. Mais les Britanniques ne pouvaient plus supporter, et à juste titre, l'ingérence et le dictat de la Commission européenne avec des normes qui étaient totalement délirantes.
Donc il resterait dans cette Europe des nations, le Royaume-Uni?
Je pense que la volonté du Royaume-Uni est évidemment de continuer de travailler avec l'ensemble des pays européens. Et effectivement...
Alors que le peuple britannique a voté pour sortir.
Mais ils ont voté pour sortir de l'Union européenne, de cette Union européenne de Bruxelles. Mais moi, je considère que cette Union européenne n'est pas l'Europe. Et que cette Union européenne, elle est en train de tuer l'Europe. Que l'Europe est un continent riche de nations qui doivent demeurer libres, souveraines. Et effectivement, dans ce cadre-là, dans ce cadre d'une Europe des projets, où on se met autour de la table quand on y a intérêt, eh bien, le Royaume-Uni, demain, pourrait revenir. Et je pense qu'on défend de ce point de vue-là une vision beaucoup plus apaisée et beaucoup plus pertinente de la construction européenne que celle que défend Macron, qui visiblement ne marche pas.
D'autres questions pour vous. Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes. Notre invité ce matin sur France Info, 8h41. Toute l'info, David Doba.
Cambriolage, vol dans les véhicules, crimes et délits, les chiffres de la délinquance en hausse depuis le mois de novembre. France Info s'est procuré donc ces chiffres du ministère de l'Intérieur. Les forces de l'ordre y voient un lien avec le mouvement des Gilets jaunes qui les mobilise depuis maintenant 5 mois. L'UE offre 6 mois de plus au Royaume-Uni pour réussir sa sortie. Les dirigeants européens et Theresa May sont donc tombés d'accord dans la nuit sur la date du 31 octobre. Emmanuel Macron évoque le meilleur compromis possible. Jean-Marie Le Pen devant la justice aujourd'hui. Il comparaît devant le tribunal correctionnel de Nanterre pour détention illégale d'armes. En 2015, des pompiers avaient découvert à son domicile un lanceur de balles de défense, deux pistolets semi-automatiques, un fusil à pompe, un revolver américain de calibre court, ainsi que des munitions. En désaccord avec le cardinal Barbarin, le vicaire du Roannais, le père Bruno Millevoye démissionne. Il estime que le cardinal aurait dû assumer sa responsabilité dans la gestion de l'affaire Prena. Il conserve toutefois des fonctions au sein du diocèse. Et puis, peut-être une branche de plus sur l'arbre généalogique, découverte en effet majeure d'une nouvelle espèce humaine aux Philippines. Des scientifiques ont retrouvé des os dans une grotte de l'île de Luzon. Il aurait vécu cet Australopithèque il y a 67 000 ans.
France Info.
Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes. Notre invité ce matin sur France Info, Renaud Dely.
Vous dites, Jordan Bardella, que vous voulez changer l'Europe, construire une Europe des nations, dites-vous.
Oui, tout à fait.
En passant une grande alliance avec tous les partis nationalistes d'Europe. Comment fait-on pour rassembler des partis qui sont extrêmement divisés aujourd'hui? Ils siègent dans trois groupes différents au Parlement de Strasbourg. Ils sont divisés dans trois groupes différents. Et ils votent pratiquement jamais la même chose sur des tas de sujets. Sur l'optimisation fiscale, les Néerlandais votent toujours contre toute forme de limitation. Sur les migrants, Matteo Salvini, votre ami Matteo Salvini, est favorable à une répartition par pays, puisqu'il demande à la France d'accueillir plus de 10 000 migrants, ce qui ne sont pas vos positions. Comment fait-on pour unir des partis aussi en désaccord?
Pas du tout. C'est-à-dire que chaque parti a effectivement ses spécificités que nous respectons. En revanche, l'ensemble de nos partis alliés, parce que ça date pas d'hier, hein. C'est-à-dire ça fait plusieurs années qu'on travaille au sein du Parlement européen avec ce groupe Europe des Nations et Libertés, avec différents alliés, l'un des trois groupes, d'ailleurs, qui sont réunis il y a quelques jours à Milan pour une conférence de presse autour de Matteo Salvini, et qui démontre aussi, je crois, cette volonté de travailler ensemble. Non, parce qu'il y avait un représentant de chaque groupe parlementaire, et il se trouve que le représentant du groupe parlementaire duquel nous participons au Parlement européen était Matteo Salvini. Donc l'ensemble de ces partis, que moi j'appelle les partis du bon sens aujourd'hui, partagent cette volonté que les nations retrouvent leurs prérogatives, que les nations retrouvent leur souveraineté. Donc on est d'accord sur l'essentiel, le retour à la souveraineté nationale et l'arrêt de l'immigration. Salvini, en l'état, il est d'accord parce que on partage cette volonté d'arrêter l'immigration dans nos pays respectifs.
Mais il veut aujourd'hui que la France accueille des migrants qui sont en Italie.
Soyez pas de mauvaise foi. Il répondait, si vous voulez, à des accusations d'Emmanuel Macron en disant, puisqu'Emmanuel Macron donne des leçons à la terre entière sur l'immigration, bien qu'il les prenne chez lui,
il reçoit plus de 10 000 migrants.
Et de ce point de vue-là, il a raison. Mais non, mais parce qu'avec Salvini, on partage cette volonté d'arrêter l'immigration. Voilà. On considère que, compte tenu de la situation économique de nos pays respectifs, qui font face à un chômage de masse, à une pauvreté massive, que ce soit en France ou en Italie, nous ne pouvons plus accueillir une immigration supplémentaire. Et donc, nous sommes d'accord sur le fait que aujourd'hui, il faut mettre en place une politique dissuasive d'immigration, c'est-à-dire couper toutes les pompes aspirantes qui font que des gens viennent dans notre pays en pensant que c'est l'Eldorado, alors que nous n'avons plus rien à offrir objectivement, et cette volonté de retrouver des frontières nationales.
Donc, si le Rassemblement National était au pouvoir en France, Matteo Salvini accepterait avec son gouvernement que tous les migrants restent en Italie
Les migrants repartent chez eux. Voilà, parce que à partir du moment où vous êtes clandestin, que ce soit en France ou en Italie, vous violez la loi et donc on n'a aucune raison de vous donner des prestations sociales, on n'a aucune raison de vous donner des droits ou de vous régulariser quand vous violez la loi. Donc effectivement, nous mettrons en place une politique dissuasive d'immigration, et d'ailleurs ça a déjà marché, parce que moi je pense que la question migratoire elle peut être traitée de manière humaine mais de manière ferme. C'est-à-dire que en réalité, les responsables des morts de la Méditerranée sont ceux qui font croire à ces gens que ils peuvent venir dans nos pays, nous allons tout leur offrir. La réalité, c'est que nous n'avons plus rien à offrir, et donc il faut que les bateaux de migrants qui viennent et qui continuent de venir nombreux soient raccompagnés vers leur pays d'origine, vers leur port le plus proche, c'est le droit de la mer, soit vers leur pays d'origine, et c'est ce qui fera baisser en l'occurrence le nombre de morts de la Méditerranée. C'est ce qu'a fait l'Australie il y a quelques années, et c'est ce que fait Salvini avec une baisse de 50% du nombre de morts dans la Méditerranée.
Ça, c'est notamment la responsabilité de l'agence européenne Frontex, dont les élus...
Non, pas du tout.
Le contrôle des frontières de l'Union européenne.
Quelle
les élus du Rassemblement national ont voté contre l'augmentation du budget de Frontex au Parlement européen en avril 2018.
Qu'est-ce qui vous fait dire que Frontex... Absolument pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que Frontex contrôle aujourd'hui nos frontières extérieures?
En tout cas, augmenter le budget de cette agence permettait de mieux contrôler les frontières extérieures.
Monsieur,
c'est l'une de ses missions.
Mais vous avez été regarder ce que fait Frontex. Frontex est aujourd'hui une hôtesse d'accueil pour migrants. Frontex finance aujourd'hui des campements de migrants, notamment en Grèce, à Lesbos. On en avait parlé il y a quelques mois. Et Frontex se comporte comme une hôtesse d'accueil. Moi, j'ai pas envie de donner... Vous me demandez pourquoi est-ce qu'on a voté contre ce renforcement de Frontex. Parce que j'ai pas envie de donner les clés de ma maison à des gens qui vous expliquent qu'il faut accueillir encore plus d'immigration. À monsieur Avramopoulos, qui est le commissaire européen en migration, qui nous explique que l'Europe va avoir besoin de 6 millions de migrants supplémentaires. J'ai pas envie de donner les clés de ma maison à madame Mogherini, qui est la chef de la diplomatie européenne, qui nous explique que l'islam politique doit s'intégrer dans les sociétés européennes. Mais j'ai pas envie de donner les clés de ma maison à ces gens-là. Si vous voulez leur remettre les clés de votre maison, c'est votre problème. Mais moi, je considère que...
Mais on comprend pas bien,
laissez-moi terminer une phrase, vous allez comprendre.
Vous êtes venu il y a 10 jours au débat de France 2, vous êtes venu avec une passoire comme objet, symbolisant à vos yeux cette Europe qui est incapable de protéger les citoyens, c'est ce que vous dites.
Tout à fait.
Et quand on regarde les votes du Rassemblement National au Parlement européen de Strasbourg, on constate par exemple que Le Rassemblement national a aussi voté contre la création de l'Agence européenne de garde-frontières, celle qui vise précisément à renforcer la protection des frontières extérieures de l'Europe.
Des États. Et encore une fois, je ne vais pas donner les clés de chez moi à des gens qui sont immigrationnistes et qui m'expliquent qu'on va laisser les fenêtres grandes ouvertes et qu'on va laisser rentrer des cambrioleurs.
Il s'agit de créer 10 000 postes de garde-frontières aux frontières extérieures de l'Europe.
Ça, c'est déjà prévu de toute manière. Ce que nous disons aujourd'hui, laissez-moi terminer, vous allez comprendre. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que il faut remettre des portes à la Maison France. Voilà. Il faut aujourd'hui rétablir des contrôles aux frontières. Il faut aujourd'hui rétablir des frontières nationales parce que la frontière, c'est un filtre et ça permet effectivement aux Français de décider de qui entre et qui sort sur leur territoire. Maintenant, demain, après, et en complément seulement de frontières nationales, on peut effectivement avoir une force d'appui qui serait créée et qui permette de venir en renfort d'État lorsqu'un État subit, par exemple, un afflux migratoire majeur. Et là, effectivement, on peut se mettre d'accord et cette force, elle peut intervenir à la demande exclusive des pays. Mais aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, je suis avec une passoire, parce qu'aujourd'hui, on rentre en France comme dans un moulin. Moi, j'étais il y a quelques jours...
On rentre en France parce qu'on rentre en Europe, Jordan Bardella. Cette passoire que vous dénoncez, ce sont les frontières extérieures de l'Europe.
Moi, j'étais il y a quelques jours...
Vous faites des trous plus gros dans la passoire, c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, puisque vous refusez de voter ces dispositifs.
Non, je remets des portes à la Maison France, voilà. Moi, j'étais il y a quelques jours...
En ne votant pas des gardes frontières...
C'est incompréhensible, parce que vous me coupez toutes les 30 secondes, donc effectivement, c'est incompréhensible. J'étais il y a quelques jours en Guyane, dans une ville frontalière avec le Suriname qui s'appelle Saint-Laurent-du-Maroni. Et là-bas, vous avez 10 000 migrants qui passent chaque année. Il suffit de traverser le fleuve, vous prenez une embarcation, il n'y a absolument aucun contrôle parce qu'on a affaibli nos effectifs de douane. Je vous rappelle qu'on en a supprimé près de 6 500 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et effectivement, on a vu beaucoup de terroristes, notamment, utiliser la filière des migrants, s'agissant notamment du commando du Bataclan. Donc effectivement, moi, je suis favorable à une frontière qui protège et qui puisse nous protéger de l'afflux migratoire et des trafics en tout genre, trafic de terroristes, trafic d'armes qui affluent aujourd'hui partout dans nos banlieues.
Justement, Jordan Bardella, si je me permets de vous couper, c'est pour essayer d'éclairer justement, d'éclaircir un peu cette expression. Vous évoquez les terroristes, notamment les terroristes du Bataclan.
Tout à fait.
Et quand on regarde les votes toujours du Rassemblement National au Parlement européen de Strasbourg, on constate que vos eurodéputés ont voté contre la création du registre des passagers aériens, le fameux fichier PNR, qui oblige les transporteurs aériens à communiquer des données sur les dates de voyage ou les itinéraires des passagers qui sont justement suspectés d'activités terroristes.
Citez-moi un terroriste qui a frappé la France depuis 2015, qui a frappé la France par avion. Aujourd'hui, les terroristes, ils sont déjà sur notre sol. Voilà, les islamistes aujourd'hui, ils sont déjà dans nos quartiers.
On a déjà vu Jordan Bardella dans l'histoire.
Oui, bien sûr.
En 2015,
bien
des terroristes se déplacent en avion. On l'a déjà vu.
Mais
ça peut pas se reproduire, monsieur.
Non,
ça
mais,
ne se reproduira
mais moi, je préfère le ciblage plutôt que le flicage. Voilà. Et je pense que le PNR, en matière de sécurité et notamment de lutte contre le terrorisme, est totalement inefficace et qui remettrait notamment nos données personnelles entre les mains des Américains, sans qu'il y ait aucune réciprocité en l'occurrence. Bon. Il se trouve que les terroristes aujourd'hui sont les islamistes. Ils sont aujourd'hui sur notre sol.
Ça ne sert à rien de remettre des portes à la Maison France, comme vous disiez.
Mais le PNR est inefficace.
Vous dites qu'ils sont déjà sur notre sol. Pourquoi faire une
Autre parce que en l'occurrence, lorsqu'ils viennent de l'étranger, ils utilisent la filière des migrants, comme ça a été le cas en 2015 avec les terroristes du Bataclan.
Ils sont déjà sur notre sol.
Qui ont remonté les filières. Non, ils peuvent venir de l'étranger en remontant les filières de migrants. Ils sont notamment remontés par la Grèce. C'était le cas des terroristes du Bataclan. Ils ont pu passer en voiture de la France à la Belgique de manière extrêmement simple, sans qu'il y ait absolument le moindre contrôle. Donc je pense qu'en matière terroriste, il faut évidemment retrouver des contrôles aux frontières nationales et il faut avoir une politique de ciblage, notamment en matière intérieure, en ciblant les 20 000 fichiers et une grande partie pour radicalisation qui sont aujourd'hui dans notre pays, qui sont de véritables bombes humaines. Je vous rappelle qu'on a quand même un tiers aujourd'hui de musulmans en France qui est favorable à l'application de la charia.
Ah bon?
Oui, ah bon, ça a été dit par vos confrères.
Vous leur avez demandé?
Vous prenez-vous les sondages quand ça vous arrange. Ça a été dit par vos confrères de l'IFOP l'année dernière, je crois. Il y a une étude qui a été faite.
Nos confrères de l'IFOP ont interrogé les musulmans français.
Oui, tout à fait. Vous pourrez me fact-checker à ce niveau-là. Vous verrez qu'on dit vrai. Et en l'occurrence, l'islamisme aujourd'hui, il pullule dans nos quartiers. Il pullule partout dans notre pays. Et encore une fois, on ne fait strictement rien à ce niveau-là. On ne fait rien pour expulser les prêcheurs de haine. On ne fait rien pour mettre hors d'état de nuire
les
islamistes radicaux.
On a d'autres questions à vous poser.
Et on ne fait rien face aux mosquées radicales qui pullulent partout dans notre pays.
Tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes, notre invité ce matin, 8h52, l'info David Dauba.
L'épouse de Carlos Ghosn s'est finalement présentée ce matin à un tribunal de Tokyo pour y être interrogée. Elle avait quitté précipitamment le pays après la nouvelle interpellation de son mari, avant donc finalement d'y retourner. Les procureurs soupçonnent l'ancien patron de Renault-Nissan d'avoir fait transiter une partie des sommes qu'il accuse d'avoir détournées via une société dont elle est l'une des dirigeantes. Reculer pour peut-être mieux sauter, les 27 permettent à Theresa May de souffler un peu. Elle a désormais jusqu'au 31 octobre pour éviter une sortie sans accord de l'Union européenne. La France peut être bientôt représentée au Vatican par une femme. Emmanuel Macron nomme Elisabeth Bethon délègue au poste d'ambassadrice, une nomination qui doit encore recevoir l'agrément officiel du Vatican. Sur franceinfo.fr, 14 associations, notamment Greenpeace et les Amis de la Terre, appellent à une nouvelle étape dans la mobilisation citoyenne sur les questions environnementales. Ils dénoncent les beaux discours de l'exécutif sur les questions écologiques et ses associations ONG également prônent la désobéissance civile pour bloquer la République des pollueurs le 19 avril. Enfin, suite et fin des quarts de finale aller de la Ligue des Champions hier soir. Résultat, un partout entre l'Ajax et la Juventus. En revanche, le FC Barcelone s'impose 1-0 sur le terrain de Manchester United.
Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes. Notre invité ce matin, Renaud Dely.
Alors on va essayer de continuer à éclaircir le projet du Rassemblement National sur l'Europe, sur l'euro très précisément. Oui. On se souvient que Marine Le Pen, lors de l'élection présidentielle, prenait la sortie de l'euro. C'est plus le cas. Aujourd'hui, l'euro finalement c'est bien et on le garde.
Non, l'euro présente un certain nombre d'inconvénients pour notre économie, à commencer par sa surévaluation. Maintenant, on a entendu ce que nous ont dit aussi les Français lors de l'élection présidentielle. Et en l'état, effectivement, ils sont attachés à la monnaie, à cette monnaie qu'est l'euro. Ils ne souhaitent pas en sortir. Donc, faut pas être idéologue, faut être pragmatique. Effectivement, sur le plan européen, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que l'arrivée partout en Europe de ces partis du bon sens et de nos alliés souverainistes dans un certain nombre de pays dont certains dirigent, on pourra renégocier, se mettre autour de la table demain et renégocier de cette question de l'euro, notamment sur sa gouvernance.
Donc on ne sortira pas de l'euro.
Aujourd'hui, non, c'est absolument pas prioritaire.
Vous aviez dit que ça restait un objectif en soi, mais que c'était pas une priorité.
Le fait de retrouver une monnaie nationale est un instrument de liberté. Voilà, parce que 95% des pays du monde aujourd'hui maîtrisent leurs frontières et ont une monnaie. Maintenant, en l'état, l'euro présente un certain nombre d'inconvénients, à commencer par sa gouvernance. Et on a une banque centrale qui a un objectif quasiment unique dans le monde, qui est de lutter contre l'inflation. Alors demain, nous on dit qu'avec nos alliés, on va se mettre autour de la table. Il faut que l'euro ait comme objectif, la banque centrale européenne, pardon, ait comme objectif de lutter contre le chômage et plus seulement contre l'inflation. Et on peut reparler aussi de l'indépendance. Mais je pense qu'il y a d'autres priorités en matière économique.
Alors l'euro, justement, il vise aussi
à savoir le patriotisme économique,
justement,
la baisse des impôts et la protection de notre industrie et de nos filières agricoles.
Je voulais vous interroger là-dessus sur le patriotisme économique. L'euro, il vise aussi à protéger l'Union européenne, un certain nombre de ses concurrents, de ses rivaux commerciaux. On a vu, par exemple, il y a trois semaines, le dirigeant chinois reçu en grande pompe en France. Et quand on regarde, on voit que les investissements chinois, ils ont progressé de 86% en France. Est-ce que ça vous inquiète pour notre souveraineté économique? Est-ce que c'est de l'impérialisme commercial?
Évidemment, et je l'ai dit, on est en train de subir aujourd'hui un pillage économique. Voilà, un pillage économique de la part de puissances privées, un pillage économique de la part de puissances étrangères.
Et de la part de la Chine, en l'occurrence.
Et ce qui est hallucinant, c'est que toutes les grandes puissances économiques du monde protègent leur économie. En l'occurrence, vous me parlez de la Chine, les marchés publics chinois sont infranchissables. Ils sont quasiment impénétrables, à l'heure où nos marchés publics sont ouverts à la terre entière. Alors nous, on défend effectivement la possibilité de faire du patriotisme économique, c'est-à-dire la possibilité pour l'État d'intervenir à chaque fois qu'une entreprise stratégique est menacée. C'est ce qu'a annoncé l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne, il y a quelques semaines, a indiqué que le ministre de l'économie allemande, qu'à chaque fois qu'une une industrie allemande serait menacée, l'État stratège allemand interviendrait, et c'est ce qu'on veut voir demain appliquer
Bardella,
en France.
Il y a un pays qui ne protège pas son économie par rapport à l'offensive chinoise, c'est le pays de votre ami Matteo Salvini qui a signé un accord avec la Chine, un accord de partenariat dans le cadre des nouvelles routes de la soie. La Chine va notamment prendre en charge le port de Trieste, des tas d'infrastructures dans le pays. Comment ça se fait?
Alors, déjà, soyons clairs, soyons précis. C'est un accord qui a été signé avec le 5 étoiles sur lequel Matteo Salvini, qui est membre de la Ligue, parce que vous savez que c'est un gouvernement de coalition, a émis un certain nombre de réserves.
Et qui est vice-premier ministre.
Oui, bien sûr. Je conteste
pas. Il aurait pu démissionner s'il était complètement en désaccord.
Maintenant, il faut être clair. Chaque pays fait du business. Voilà, chaque pays défend ses intérêts. Et encore une fois, si l'Italie trouve qu'il est bon de négocier avec la Chine sur le port de Trieste, eh bien ils le font. Ça fait partie de sa liberté.
C'est pas du patriotisme économique.
Moi, je considère.
Ça, c'est pas du patriotisme.
Non, mais je vous parle de la France. Moi, je suis responsable politique français. Mais,
bon, donc c'est pas un gouvernement patriote, le gouvernement italien.
Si, c'est un gouvernement patriote, mais en l'occurrence,
sauf pour l'économie.
Si l'Union européenne était capable aujourd'hui, était suffisamment forte pour défendre ses intérêts et protéger les marchés européens, eh bien l'Italie n'irait sans doute pas négocier
des
accords économiques, bien sûr. Hein, mais si l'Union européenne était suffisamment forte, vous l'admettrez, l'Italie n'irait pas négocier sans doute avec la Chine.
Donc il faut davantage d'Europe.
Moi, ce que je dis, c'est que il faut davantage de patriotisme économique en
européen.
France en l'occurrence. On a vendu il y a quelques semaines l'aéroport de Toulouse aux Chinois. C'est une catastrophe. La Cour d'appel administrative de Paris vient d'ailleurs de recommander l'annulation de la privatisation puisque les Chinois sont visiblement en train de vider les caisses et on est en train de brader l'ensemble de nos fleurons industriels. Donc moi je dis à monsieur Macron, arrêtez de vendre ce qui n'est pas à vous. Arrêtez de vendre le patrimoine des Français.
Et vous le dites à votre ami Matteo Salvini aussi ?
Je le dis à monsieur Macron. Voilà, je le dis à monsieur Macron parce que aéroport de Paris, la Française des Jeux, Engie, aéroport de Toulouse, ce n'est pas à vous, c'est le patrimoine des Français. Donc arrêtez par pitié de vendre ce qui ne vous appartient pas. Et demain, si nous arriverons au pouvoir, nous récupérerons tout ce qui appartient aux Français, commencer par leur patrimoine matériel.
Jordan, merci
à vous.
Merci beaucoup. La tête de liste du Rassemblement national pour les élections européennes, invité de France Info ce matin. Excellente journée à tous.